effectivement, hier on parlait de l'attentat d'Awara dans la une en Israël. Aujourd'hui, un autre attentat est à l'ordre du jour. On va parler de l'attentat de Hebron, Lise.
Oui, on est en ligne ce matin avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Donc, les deux Palestiniens soupçonnés d'avoir perpétré l'attentat de Hebron hier ont été arrêtés hier soir par les forces israéliennes. Ça n'a pas traîné, hein, Raphaël, cette arrestation.
Oui, il s'agit de deux cousins qui habitent la ville de Hebron, et puis une troisième personne a été arrêtée. Et on suspecte une complicité de plusieurs autres membres de la famille. Ce coup-ci, l'arrestation a été assez rapide. Dès le départ, on soupçonnait que les terroristes venaient effectivement de la ville de Hebron, laquelle est un bastion traditionnel du Hamas, une ville très très religieuse que l'on comparerait à Jérusalem en Israël, par rapport à Ramallah, qui serait la Tel Aviv de l'autorité palestinienne. Donc une ville très très religieuse avec sur le bord de la ville une implantation assez importante de Kiryat Arba, aussi religieuse, qui jusqu'à présent, donc cette ville de Hebron et cette région de Hebron étaient plutôt calmes durant la vague de terrorisme récente. Et donc c'est très inquiétant de voir le théâtre d'opération de Hebron peut-être se réveiller, ce qui aurait comme conséquence la nécessité pour ça de déployer encore plus de forces et cette fois-ci de faire appel aux réservistes.
Alors l'armée israélienne est effectivement préoccupée par le terrorisme, notamment sur les routes, puisque donc cet attentat de Hebron, il a eu lieu hier alors que la mère de famille en question était au volant de sa voiture sur la route 60. Et on dit, enfin on a entendu dire un certain nombre de hauts responsables de l'establishment sécuritaire que le pic de cette vague terroriste, il n'est pas encore atteint, Raphaël Jérusalemi, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, car les terroristes en puissance sont encouragés par ces succès, entre guillemets, qui sont des succès isolés lorsqu'on sait le véritable nombre de tentatives. Oui. Derrière chaque réussite, il y a plusieurs dizaines de tentatives qui sont déjouées par les forces de sécurité israéliennes. Alors évidemment, de façon naturelle, on ne parle que des attentats qui sont mis à exécution. Mais en fin de compte, un travail énorme est accompli de prévention. Ceci étant dit, il faut savoir deux choses. La première, c'est que il est absolument impossible d'assurer une sécurité à 100% le long d'une route. On ne peut pas mettre un soldat tous les 10 mètres. Et donc, une route est nécessairement un endroit qui est facile pour perpétrer des attentats. Mais on peut dire la même chose d'une colline ou d'une oliveraie. Et il y a donc une impossibilité d'assurer une sécurité à 100% face à cette vague de terrorisme. D'un autre côté, il y a aussi le dilemme de savoir jusqu'à quel point on veut intervenir, car l'autorité palestinienne, surtout dans la zone A, est responsable de ce qui se passe dans sa zone. Et la seule solution serait donc de reconquérir, entre guillemets, les territoires, de réoccuper les territoires à 100% et d'établir une sorte d'état de siège. Mais même dans ce cas-là, il y aurait quand même des possibilités d'attentats. Comme je l'ai dit, il faudrait un déploiement énorme dont même le grand SAD n'a pas les moyens. Donc on est dans une impasse sur le plan sécuritaire. Il y aura effectivement de plus en plus d'attentats. Les Iraniens, cette fois-ci, seront entrés dans la danse après des années d'efforts. Ils ont réussi à injecter de l'argent, des armes illégales, à faire régner une atmosphère de propagande anti-sioniste, antisémite auprès d'une certaine jeunesse palestinienne qui aujourd'hui bien porte ses fruits et fait qu'il y a énormément de terroristes actifs et en puissance. Et ça va être une plaie avec laquelle il va falloir s'habituer à vivre.
Tout le monde dit justement, Raphaël, qu'une vaste opération en Judée-Samarie est quasi inévitable.
Alors, je pense qu'il y a des possibilités d'opération coup de poing. comme il y en avait eu à Jenin récemment, il y a quelques semaines, opération Maison et Jardin, une sorte de nettoyage qui malheureusement ne fait gagner que quelques jours ou quelques semaines, car ensuite les terroristes se regroupent et se réorganisent, comme je l'ai dit, et on ne peut pas occuper ou assiéger toutes les villes de l'autorité palestinienne, c'est absolument impossible. Ça serait d'ailleurs une punition collective que ne mérite pas toute la grande majorité de la population palestinienne qui n'est pas terroriste, qui est pacifique et qui au contraire veut faire des affaires avec les Israéliens et gagner sa vie. Donc ça c'est un dilemme. Les gens qui préconisent une opération de grande envergure, ce sont en général des gens qui sont assis à la Knesset dans un fauteuil et qui n'ont aucune notion de ce qu'est le danger que cela implique et les dégâts que ça pourrait causer, mais surtout le danger pour la vie de nos soldats. Ça serait une opération qui coûterait cher en vie humaine de part et d'autre et qui, à mon avis, ne serait pas efficace à 100% non plus, sans compter tous les problèmes que ça causerait sur le plan de la politique interne et de la politique internationale.
Alors, un conseil de sécurité et un conseil des ministres exceptionnels doivent avoir lieu aujourd'hui à midi et demi avec les étapes d'un plan pour éradiquer le terrorisme. Hier, Benjamin Netanyahou s'est rendu sur les lieux même de l'attentat. C'est rare que Benjamin Netanyahou se rende en Judée-Samarie et particulièrement tout de suite après un attentat.
Oui, je pense qu'il veut rejouer la carte de Monsieur Sécurité. En fin de compte, si l'on regarde bien, depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui était le plus à droite que Israël ait jamais connu, eh bien, il y a un échec sécuritaire flagrant, avec une politique plutôt frileuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas autorisé l'armée à agir de façon beaucoup plus ferme et musclée, par exemple dans le domaine de prédilection, pour moi en tous les cas, mais pour beaucoup de personnes de la sécurité, les éliminations ciblées de hauts dirigeants du Hamas et du djihad islamique. Pour commencer, il faudrait entamer cette solution-là, qui est bien plus efficace qu'une grande invasion des territoires avec des réservistes. Et il y a d'autres façons d'opérer, je pense qu'elles seront discutées effectivement dans les réunions de cabinet. Malheureusement, aujourd'hui, les réunions de cabinet, c'est autour d'une tasse de thé avec des gens qui, les trois quarts, ne comprennent pas grand-chose aux problèmes sécuritaires, qui n'ont aucune formation militaire et qui ont surtout des ambitions politiciennes qui freinent le travail de l'armée. Il y a aujourd'hui une atmosphère au sein du niveau politique israélien où on laisse certains membres de la Knesset, je dis bien certains, car tout le peuple d'Israël est pour Tzahal, mais certains membres de la Knesset s'en donnent à cœur joie en critiquant Tzahal, en prenant des solutions complètement irréaliste et même en tenant un langage inacceptable à l'égard des forces armées qui, à la longue, eh bien, dessert complètement le projet sécuritaire.
Bien sûr. Quand Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou déclarent tous les deux que c'est l'Iran qui est derrière cette vague et que le financement iranien a marqué un changement significatif parce que ça, en fait, inonde d'armes les Palestiniens de Judée-Samarie, ça remonte à quand cet état de fait, Raphaël ?
Alors, à plusieurs années, mais au départ, c'était une opération qui ne marchait pas. Ça ne marchait pas sur le plan de l'approvisionnement en armes illégales. Le trafic était assez réduit. Aujourd'hui, il est absolument intense, c'est-à-dire que les Iraniens financent surtout des contrebandiers bédouins de Jordanie pour faire passer des armes illégales vers la Judée-Samarie. Ils donnent de l'argent physiquement, donc des mouvements de fonds importants qui sont des fonds qui sont versés aux factions terroristes et à qui elle veut bien les recevoir et agir. On a eu l'exemple de la fosse au Lion, on a eu l'exemple de la brigade de Jenin, qui sont des factions un petit peu spontanées, autonomes, qui n'obéissent pas d'ailleurs à la chaîne de commandement habituelle du Fatah, du Hamas ou du djihad islamique. Tout cela avec des fonds iraniens, un investissement énorme sur le plan de la propagande sur les réseaux sociaux, hein, des productions presque hollywoodiennes de films de propagande antisionistes et antisémites virulents d'appel aux martyrs et aux djihad dont on inonde les réseaux sociaux pour influencer une certaine jeunesse marginale palestinienne, c'est pas difficile. Un jeune palestinien dans un village qui n'a rien à faire, il est donc à la merci sur son téléphone de toutes ces propagandes, plus des conseils qui sont donnés par les gardiens de la Révolution sur des vidéoclips où on explique comment fabriquer des explosifs, comment se déguiser, comment choisir une cible facile à atteindre, avec donc cette nouvelle solution pour les terroristes qui semble une sorte de mode, c'est-à-dire de une voiture et de passer en voiture, de doubler une autre voiture, de tirer et de s'enfuir. Tout cela, c'est made in Téhéran au départ.
Ouais. Bon, et ben, espérons qu'on va trouver la recette magique contre cette nouvelle vague de terrorisme, parce qu'on est déjà à 3 morts en 2 jours. Donc, espérons que ça cesse. Merci à Raphaël Jérusalemi pour ses explications. Et je rappelle que vous êtes écrivain et ancien officier des renseignements militaires. À très vite.